Le 13 mai 2024 et dans les semaines qui ont suivi, des milliers de jeunes, de pauvres, de travailleurs kanaks se sont révoltés, entraînant toute une partie de la jeunesse d'origine océanienne. Les causes immédiates de cette révolte étaient le dégel du corps électoral projeté par le gouvernement français en Nouvelle-Calédonie. Cette mesure administrative, reniant les promesses des décennies précédentes, les rendait minoritaires sur leurs propres terres en permettant à des résidents fraîchement arrivés sur l'île de participer au référendum sur son avenir. Cette provocation fut vécue par les Kanaks comme une déclaration de guerre. Elle a agi comme un détonateur, faisant exploser la colère accumulée par des décennies d'oppression. Et la répression fut brutale. Sur les 14 morts qu'il y eut dans ces événements, 11 sont des Kanaks. 7 de leurs dirigeants ont été déportés dans les prisons de métropole, mais le pouvoir a dû remballer, au moins pour un temps, son projet. À Mayotte, à quelques milliers de kilomètres de la Nouvelle-Calédonie, le passage de l'ouragan Chido en décembre dernier a été un révélateur du mépris colonial de l'impérialisme français. La première mesure prise par l'État français n'a pas été d'envoyer de l'eau, des soignants, des médicaments ou de la nourriture, mais de décréter un couvre-feu, d'y dépêcher des milliers d'hommes en armes et des engins blindés pour maintenir l'ordre et faire la chasse aux étrangers. Alors que la population manque de tout, c'est le droit du sol que l'État a décidé de durcir, rendant la vie encore plus difficile à ceux des pauvres de l'île qui n'ont pas les papiers français, créant un fossé de haine entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, alors que tous sont issus du même peuple. Depuis près de 2 siècles qu'il domine ces îles, l'État français décrète qui peut ou pas y vivre, qui a le droit ou pas de voter. Il désigne ceux qu'il considère comme indésirables. Il réprime, tue, sépare les peuples. Pour mieux régner, il dresse les opprimés les uns contre les autres. Dans l'océan Indien, à Mayotte comme à La Réunion, dans l'océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, la France agit toujours en puissance coloniale. C'est vrai aussi en Guadeloupe et en Martinique, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui et où nos camarades de combats ouvriers défendent une politique communiste révolutionnaire auprès des exploités. Ces territoires et les peuples qui les habitent sont aujourd'hui comme hier autant de pions que l'impérialisme français utilise pour atteindre ses objectifs de puissance. Alors qu'il a perdu la majorité de ses possessions en Asie et en Afrique lors de la vague de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, l'État français a réussi à maintenir là-bas sa domination directe avec ses institutions, sa police et son armée sur des centaines de milliers de pauvres et de travailleurs. La situation à Mayotte, comme la révolte l'année dernière en Nouvelle-Calédonie, nous montre que dans ces colonies, des explosions sociales peuvent survenir à tout moment. Dans quel sens ces explosions auront-elles lieu? Quelles perspectives pourraient-elles ouvrir pour les travailleurs et les opprimés, non seulement de ces îles, mais aussi de métropoles et de toutes les régions voisines? Voilà ce dont nous voulons discuter aujourd'hui en revenant sur cette histoire coloniale. La bourgeoisie française s'est lancée dès le XVIIe siècle dans le pillage de territoires outre-mer et dans la soumission des peuples qui les habitaient. Sous l'impulsion de Colbert, le ministre de Louis XIV, militaires et fonctionnaires, accompagnés de missionnaires, permirent à cette classe de marchands d'accumuler une formidable masse de capitaux qui sera à la base de son développement industriel. La France n'était alors que peu présente dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, qui étaient dominés par l'Angleterre, la Hollande et leur compagnie des Indes orientales. Ces compagnies étaient de véritables multinationales commerciales dotées d'une puissante flotte, d'une force armée et disposant des prérogatives d'État sur les territoires qu'elles avaient conquis. C'est en 1664 que Colbert fonda une compagnie similaire à qui il donna l'année suivante en propriété l'île Bourbon, c'est-à-dire l'actuelle Réunion, pour la mettre en exploitation. Cette compagnie française des Indes orientales tenta de se faire une place entre les Anglais et les Néerlandais en installant des comptoirs commerciaux en Inde et dans les îles voisines de la Réunion, en particulier l'île de France, l'actuelle île Maurice. Cette dernière devint d'ailleurs le centre des possessions françaises dans l'océan Indien au XVIIIe siècle. La France y installa sa principale base militaire et mit en culture ses forêts pour y développer ses plantations de canne à sucre. L'île Bourbon avait désormais pour tâche de nourrir l'île de France ainsi que les escadres françaises dans l'océan Indien. Ces possessions firent le bonheur des actionnaires de la Compagnie des Indes, des commerçants qui faisaient des affaires avec les cours des sultans des Indes, ainsi que des colons exploitant les plantations des îles. Ces possédants s'enrichissaient de l'exploitation de leurs esclaves. 200 000 esclaves venant d'Afrique, de Madagascar ou des côtes indiennes furent introduites à Bourbon. L'esclavage n'était pas le fait de trafiquants sadiques et sanguinaires. C'était un élément constitutif et officiel de la politique coloniale française. Il était organisé méthodiquement par le Code noir qui faisait des esclaves des meubles, c'est-à-dire des biens que le maître pouvait librement vendre ou échanger comme de vulgaires objets. Le Code réglementait leur vie, leur mort, leurs allées et venues, leur nourriture, le fouet, les marques au fer rouge, les mutilations, la mort par pendaison étaient les châtiments infligés aux esclaves en cas de désobéissance ou de rébellion. Voilà comment se sont battues les fortunes de cette colonie, en suant le sang et la boue par tous les pores, pour reprendre les mots de Marx. La Révolution française ne dérange à guère le fonctionnement de la société de ces îles Bourbon et de France. Suite à la révolte des esclaves de Saint-Domingue dans les Caraïbes, l'esclavage fut aboli en 1794. Mais la bourgeoisie révolutionnaire de métropole, profondément liée aux négriers des ports, n'eut pas la volonté de faire appliquer l'abolition et les planteurs purent continuer à exploiter leurs esclaves dans les mêmes conditions jusqu'à ce que Napoléon rétablisse l'esclavage en 1802. Au début du XIXe siècle, la bourgeoisie française était sortie affaiblie de la période des guerres napoléoniennes. Dans l'océan Indien, l'Angleterre l'a dépossédée de sa principale base militaire, l'île Maurice, ne lui laissant que l'île appelée dorénavant l'île de la Réunion. Mais la bourgeoisie française disposait désormais d'un État à sa main, qui mit tous les moyens pour financer les infrastructures nécessaires au développement de la bourgeoisie. L'État français remit sur pied sa flotte de guerre pour se lancer à la conquête des océans Pacifique et Indien, où les territoires à prendre étaient nombreux. Vers 1840, Guizot, le ministre des Affaires étrangères, déclara, je le cite, « Il est indispensable de posséder sur les points du globe qui sont destinés à devenir de grands centres de commerce et de navigation, des stations maritimes sûres et fortes qui servent de point d'appui à notre commerce et où ils puissent se ravitailler et chercher refuge. » Cette politique des points d'appui aboutit dans l'océan Indien à l'annexion de Mayotte en 1841, en Océanie à celle des îles Marquises et de Tahiti en 1842, et enfin à la conquête de la Nouvelle-Calédonie en 1853. La conquête de ces archipels se fit en soumettant les peuples qui y vivaient, par la force ou par la ruse, en y installant ses militaires, ses curés et son administration. Partout, la bourgeoisie a bouleversé ces territoires. Guerres et massacres, soumission et relégation des populations ont accompagné son installation. Dans le même temps, elle y développa une économie coloniale où elle fit surgir un prolétariat moderne aux origines diverses et variées. Lors de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853, l'archipel, situé à 3000 km à l'est de l'Australie, était peuplé de Mélanésiens, qu'on appelle aujourd'hui les Kanaks, et qui avaient déjà subi les ravages de la présence européenne. Baleiniers, négociants de bois de santal de tous horizons, débarquaient régulièrement depuis le début du XIXe siècle en Nouvelle-Calédonie. Les épidémies, l'alcool et les violences qui les accompagnaient décimèrent la population qui avait déjà chuté en quelques décennies de 300 000 personnes à environ 100 000 au moment où l'État français colonisa l'archipel. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie fut une des plus féroces. Dès son arrivée, considérant que les terres n'étaient habitées que par des sauvages qui devaient s'incliner devant les représentants des races supérieures, Le pouvoir spolia sans ménagement les Kanaks et de leurs terres. Le gouverneur se comportait en propriétaire et maître de l'île. Il décréta que les Kanaks n'auraient droit qu'à 1/10 des terres et qu'ils seraient parqués dans des réserves choisies par lui-même. Des dizaines de milliers d'hectares de terres volées furent attribués aux premiers colons de l'île. Des terres furent affectées au bagne que le gouvernement français ouvrit de 1864 à 1897 pour y enfermer plus de 30 000 prisonniers, la plupart condamnés aux travaux forcés. Ils étaient en majorité des prisonniers de droit commun, mais 4 000 d'entre eux furent des révoltés de la Commune de Paris de 1871, parmi lesquels la révolutionnaire Louise Michel. Ce bagne fut aussi la destination des Kabyles insurgés contre la France en Algérie la même année que les communards. Une fois leur peine purgée, les ex-bagnards avaient l'obligation de demeurer sur l'archipel pour y cultiver de micro-lopins de terre, de mauvaises terres, impossibles à travailler. Condamnés à vivoter de petits boulots, les ex-bagnards partageaient bien souvent la relégation des Kanaks. Malgré les obstacles mis par le pouvoir colonial, malgré les préjugés contre les peuples colonisés chez les bagnards, y compris parmi les communards, des contacts entre tous ces opprimés eurent lieu. Louise Michel put ainsi entretenir des liens avec les Kanaks et à travers elle, le mouvement ouvrier français commençait à s'intéresser à la question coloniale. Elle prit fait et cause pour leurs révoltes qui éclatèrent dès les premières années de la colonisation française contre le vol des terres, mais aussi contre le travail forcé que cherchait à leur imposer le pouvoir. Pendant les 20 premières années de la colonisation, la guerre fut impitoyable. Un commandant affirmait ceci, je le cite, « Il faut commencer par détruire cette population si l'on veut vivre en sécurité dans le pays. » L'armée était donc prête à les exterminer. Malgré les massacres, les destructions de récoltes, les incendies de cases, eh bien, elle ne parvenait pas à les mater. En 1878, le pouvoir dut faire face à un puissant soulèvement qui regroupa 3000 combattants derrière le chef Ataï, attaquant des dizaines de fermes et tuant près de 200 colons. Il fallut 18 mois à l'armée, à laquelle se joignirent beaucoup de bagnards et de colons blancs, près de 1200 morts chez les Kanaks, la destruction systématique de leurs villages pour que les colonisateurs français en viennent à bout. Comme partout et à chaque époque, la bourgeoisie coloniale chercha à diviser le camp adverse, en trouvant des points d'appui chez les colonisés. Tel un symbole, Ataï fut finalement tué au combat par un Kanak d'un clan rallié aux colonisateurs. Sa tête, conservée dans un bocal de formol, fut montrée à Nouméa comme un trophée, avant d'être expédiée en métropole, où elle resta jusqu'en 2014. Dans le manifeste du Parti communiste écrit en 1848, à l'époque donc dont nous parlons, Karl Marx et Friedrich Engels, faisant le constat que la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares et qu'elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production. En Nouvelle-Calédonie, la décennie 1890 fut en ce sens un tournant. Le territoire était riche du nickel. Depuis les années 1860, les sociétés minières et la principale d'entre elles, la société Le Nickel, propriété de la banque Rothschild, bénéficiaient du travail gratuit des milliers de bagnards que l'administration coloniale mettait à leur disposition pour en tirer profit. Mais les bagnards n'étaient pas assez productifs à leurs yeux. Ils furent remplacés par des travailleurs que l'administration se chargea elle-même d'aller chercher. De Java, des Nouvelles-Hébrides, l'actuel Vanuatu, d'Indochine et du Japon, des milliers de travailleurs de tous horizons débarquèrent en Nouvelle-Calédonie. C'était des engagés, avec un statut proche de l'esclavage qui les obligeait à travailler entre 2 et 5 ans dans les mines, au service d'un patron qu'ils ne pouvaient quitter, qui avait toute autorité sur eux, les faisait trimer 12 heures par jour, tous les jours. Ils vivaient entassés dans des dépôts, de véritables prisons, sous contrôle de l'administration qu'il leur était interdit de quitter sous peine de punition. En parallèle, l'administration fit venir des émigrants de France. L'espoir d'une vie nouvelle et de l'acquisition d'une propriété convainquit quelques milliers de membres des classes populaires de métropole de venir y tenter leur chance. Certains s'enfoncèrent dans la pauvreté sur des terres incultivables, pendant que d'autres, bénéficiant de la proximité des mines, arrivèrent à faire prospérer leur exploitation ou leur commerce et à placer leurs enfants dans les postes à responsabilité minière. Ils commencèrent à constituer une population blanche qu'on appela plus tard les Caldoches, farouchement attachés à sa petite ou grande propriété et dont son ensemble profondément hostile aux Kanaks. Avec eux, l'État français s'était donné une base sur laquelle il allait s'appuyer pour maintenir sa domination. Le pouvoir colonial accentua alors la relégation et l'oppression des Kanaks. Sommés de quitter les terres les plus fertiles, leurs clans furent cantonnés dans ce que l'administration appela des tribus. Ils étaient soumis à l'autorité d'une hiérarchie de chefs désignés parmi ceux des leurs que le pouvoir colonial avait choisi pour les surveiller. Le gouvernement les soumit aux rigueurs du code de l'indigénat, un régime disciplinaire qui laissait les mains libres au pouvoir pour les enfermer, les séquestrer ou leur confisquer leurs biens sous n'importe quel prétexte. Au début du XXe siècle, les Kanaks n'occupaient plus que 8% de la superficie de la Grande Terre, c'est-à-dire de l'île principale. Et ils faillirent même disparaître. En 1921, ils n'étaient plus que 27 000. Et pourtant, ils continuèrent à se battre. Lorsque l'État les contraignit à s'engager pour aller mourir à la guerre en Europe en 1917, une partie des clans se souleva autour du chef Noël de Tiamou. C'était le fils d'un insurgé de 1878. Durant près d'un an, environ 300 guerriers kanaks menèrent une guérilla contre des postes militaires ou des stations d'élevage de colons. La répression de l'armée fut près de 200 morts et Noël fut assassiné par un colon. Le colonisateur mit tout en œuvre pour séparer les Kanaks du reste de la population pauvre de l'île, qui aurait pu se lier à leur combat. En plus des humiliations quotidiennes, il en faisait un spectacle sordide lorsque les Kanaks étaient montrés comme des bêtes dans un zoo lors des expositions coloniales de métropole. Cela lui permettait d'enraciner un profond racisme chez toute une partie des Caldoches sur lesquelles l'impérialisme cherchait à s'appuyer. Mais malgré tout, les Kanaks, dominés, expropriés, ravalés par l'impérialisme au rang de sous-hommes, n'ont jamais cessé de se battre. À 4500 kilomètres à l'est de la Nouvelle-Calédonie, en plein milieu du Pacifique, le sort des Polynésiens fut similaire à celui des Kanaks. Au moment de la prise de possession française en 1842, les Polynésiens subissaient déjà dans leur chair les conséquences de la présence européenne chez eux depuis plusieurs décennies. Décimés par les maladies et subissant les ravages de l'alcool, la population polynésienne avait chuté brutalement. Sur l'île de Tahiti, la population était passée de 70 000 habitants en 1760 à 9 000 en 1842. Et malgré cela, les Tahitiens menèrent une résistance acharnée contre l'invasion française. En arrivant, les officiers français destituèrent la reine Pomarée, confisquèrent ses terres, arrêtèrent les chefs et exigèrent une rançon menaçant de la guerre. Durant 3 ans, 4000 combattants, c'est-à-dire la moitié de la population de l'île, tinrent en échec une armée bien plus équipée qui dut mobiliser l'ensemble de sa flotte du Pacifique pour finalement les soumettre. À la différence de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie n'était pas initialement destinée à devenir une colonie de peuplement, mais simplement une base militaire. Mais à partir des années 1860 et de la guerre de sécession américaine, l'envol du prix du coton ouvrit des appétits d'entrepreneurs venus d'Europe et entraîna la mise en culture de production tropicale autour de Tahiti. les conquérants européens, pour reprendre les mots de Rosa Luxembourg, ne se proposaient pas uniquement d'asservir et exploiter économiquement les indigènes, mais arracher de leurs mains les moyens de production eux-mêmes, le sol. L'administration mit à leur disposition des milliers d'hectares confisqués aux Tahitiens. Par exemple, 3000 hectares furent concédés à Atimaono, sur l'île de Tahiti, à un commerçant écossais pour y faire pousser café, coton et canne à sucre. 1500 ouvriers y travaillaient. Des centaines de Tahitiens et de Polynésiens des autres îles se mêlaient à des centaines de travailleurs provenant des îles Cook, des Kiribati britanniques, qui étaient situés à plusieurs milliers de kilomètres, et même de la Chine, qui est toujours située à près de 10 000 kilomètres de la Polynésie. Pour aller les chercher, les planteurs engageaient des recruteurs qui pratiquaient ce que l'on appelait le blackbirding, c'est-à-dire la traite des oiseaux noirs. Une pratique digne de la traite négrière, où ils achetaient des cargaisons de travailleurs à des armateurs anglais qui les avaient arrachés de force à leurs îles d'origine. Ils étaient vendus aux planteurs pour plusieurs années. Ces travailleurs allaient constituer un premier prolétariat agricole, auquel allait s'ajouter bientôt un nouveau prolétariat industriel. Dans les années 1880, la France étendit sa présence en Polynésie, comme ailleurs sur le globe. Le capitalisme connaissait à ce moment une nouvelle évolution. Banquiers et capitalistes européens avaient amassé des masses considérables de capitaux qu'ils voulaient faire fructifier. En rivalité entre eux pour accaparer marchés et matières premières, s'appuyant sur leurs États respectifs, une course de vitesse s'engagea entre les puissances européennes, devenues impérialistes, pour se partager le globe. Et l'Océanie était l'objet de toutes les convoitises. L'Allemagne, puissance montante en quête de colonies, était venue perturber le partage des archipels du Pacifique que la France et la Grande-Bretagne avaient organisé entre elles. L'Allemagne prit le contrôle de la Papouasie, des Samoa et des îles Salomon. Menacée par ses concurrents, la bourgeoisie française s'organisa pour y renforcer sa présence. En Polynésie, elle colonisa plus d'une centaine d'îles et d'atolls, parfois éloignés de plusieurs milliers de kilomètres entre eux, et les regroupa dans un vaste ensemble politique qu'elle appela « Établissement français d'Océanie ». Pour soumettre la population polynésienne, la France eut de nouveau recours à la force. En 1887, sur la petite île de Raiatea, proche de Tahiti, 800 hommes, c'est-à-dire un tiers de la population, s'organisèrent derrière un chef des clans locaux, qui s'appelait Teraupo, et qui rallia l'ensemble des clans de l'île derrière lui pour mener la résistance. Il fallut 10 ans à l'armée française pour les vaincre, malgré sa supériorité technique. Teraupo fut condamné ensuite à 10 ans de bagne en Nouvelle-Calédonie. Et quand ce ne fut pas l'armée, ce furent les curés qui intervinrent. Grâce à la présence de missionnaires catholiques qui réglaient depuis plusieurs décennies déjà la vie civile et religieuse des habitants, l'impérialisme français prit possession des îles Gambier, situées à 1500 km au sud-est de Tahiti. Et après les curés et les militaires, vint le tour des juristes. Dès la fin des années 1880, du phosphate fut découvert sur l'île de Makatea, à 220 km au nord de Tahiti. Avec l'aide de notaires, de magistrats, d'avocats, l'ingénieur Touzé, qui découvrit le gisement, fit signer 1200 contrats de vente aux propriétaires de l'île pour obtenir leurs terres à des prix dérisoires, dépossédant ainsi des centaines de familles. Touzé fonda la Compagnie française des phosphates d'Océanie. Elle exploita la mine entre 1908 et 1966, arracha 11 millions de tonnes de phosphates en y faisant trimer des milliers de Chinois, de Japonais, d'Indochinois, en plus de tous les Océaniens qu'elle fit venir des myriades d'îles qui entourent la Polynésie. Une bonne partie d'ailleurs de ces ouvriers participèrent plus tard à la construction du centre d'expérimentation nucléaire. En leur volant leurs terres, le capitalisme européen avait sapé la base de l'ancienne organisation sociale des Polynésiens. Ils furent forcés de se fondre, dans la société coloniale. Pour assurer la gestion générale de la société, l'administration laissa subsister les chefs coutumiers en les assimilant à de petits fonctionnaires, ce qui leur permettait de recevoir une écharpe tricolore, mais pas grand-chose de plus. L'intégration de ces chefs permettait de canaliser les conflits tout en maintenant la soumission de la population. En même temps, le pouvoir interdisait à la population la pratique de la langue tahitienne et l'obligeait à participer aux fêtes patriotiques françaises. Il put pour cela s'appuyer, comme souvent, sur la religion, les écoles catholiques et protestantes ayant le monopole sur l'éducation. Colons et Polynésiens se marièrent. Le métissage fut aussi un puissant moyen pour les colons d'assurer leur domination. Victor Raoult, par exemple, un marin français originaire de l'île d'Oléron, devenu un riche négociant, possédant de champs de canne à sucre à Tahiti à la fin du XIXe siècle, se maria avec une fille de propriétaire polynésien de Mouréa, une petite île à côté de Tahiti. Il put ainsi s'intégrer dans les milieux des chefferies tahitiennes, tout en trustant les positions de pouvoir dans l'administration coloniale. Ses enfants métis, appelés des demi, devinrent à leur tour des membres influents de la petite bourgeoisie locale, à cheval entre la société coloniale et la société polynésienne. Au début du XXe siècle, cette population de demi fut le plus fidèle soutien de l'administration coloniale. Celle-ci les promit à des postes de direction administrative tout en les soutenant dans leurs affaires. Les demi lui devaient ainsi leur position sociale et le pouvoir put s'appuyer sur eux pour y imposer sa présence. À des milliers de kilomètres de la Polynésie, la concurrence entre les puissances européennes pour contrôler les îles de l'océan Indien était tout aussi âpre. La seule île conservée par la France après les guerres napoléoniennes, c'était la Réunion, et elle était aux mains de colons propriétaires fonciers enrichis grâce aux plantations de canne à sucre et aux usines sucrières. Leurs affaires ne furent aucunement bouleversées par l'abolition de l'esclavage en 1848, remplacée, comme en Nouvelle-Calédonie, par l'engagisme. Entre 1860 et 1885, de 3000 à 5000 Indiens furent engagés chaque année à La Réunion aux côtés de milliers d'Africains, de Comoriens, de Yéménites ou de Malgaches qui partageaient leur sort. Les engagés étaient sous contrat pour une durée de 5 ans en général. Théoriquement libres avant de s'engager, nombreux étaient ceux qui, en réalité, étaient achetés à des marchands d'esclaves qui les faisaient venir à La Réunion dans des conditions à peine meilleures que celles des navires négriers. Ils étaient ensuite mis au travail dans des conditions similaires à celles des esclaves. Même camp, même système de commandement, des horaires de travail à rallonge. La dernière composante du prolétariat réunionnais fut formée des petits blancs, qui partageaient la même misère que les descendants d'esclaves et que les engagés. Trop petits pour suivre le progrès technique et incapables de survivre à l'abolition de l'esclavage, ces petits blancs se sont souvent réfugiés dans les hauts de l'île, à la limite des terres cultivables, vivant chichement, mais librement, de chasse, de cueillette, de rapine, aux grandes dames des plus riches, qui les qualifiaient, je cite, de vermines rongeantes pour la colonie. Alors si La Réunion faisait le bonheur des planteurs, Mayotte, située à mi-chemin entre le sud-est du continent africain et Madagascar, occupait une position de premier plan sur le canal de Mozambique. Mayotte pouvait devenir une station militaire pratique en raison de ses rades immenses protégées par une ceinture de récifs qui la rendait facile à défendre. La prise de contrôle de Mayotte à partir de 1841 fut réalisée sans guerre parce que le sultan de Mayotte, Andrian de Soli, en difficulté face au sultan des îles comoriennes voisines, s'était placé sous la protection de la France. En contrepartie, il lui cédait en toute propriété l'île de Mayotte, qui devint ainsi une partie du royaume de France. Cet épisode permet aujourd'hui aux notables maorais de défendre la présence française tout en propageant une haine anti-comorien. Sur Mayotte, le pouvoir colonial s'employa à en exploiter les richesses et il soumit les populations à ses exigences accompagnées du même mépris qu'ailleurs. Les promesses de respect des propriétés des Maorés, qui avaient été gravées noir sur blanc dans le traité du 25 avril 1841, signé avec le sultan lors de la prise de possession, tout ça fut rapidement bafoué. L'État français leur vola leurs terres et en fit des concessions à des métropolitains ou à des réunionnais. Sur le modèle de la Réunion, l'administration coloniale chercha à faire de Mayotte une île tournée vers la monoculture du sucre à partir de la fin des années 1840. Alors, dans sa recherche de main-d'œuvre à exploiter sur ses plantations, la bourgeoisie était bloquée. Le système esclavagiste en vigueur à Mayotte avant son arrivée rendait cette main-d'œuvre indisponible. Aussi, pour pouvoir bénéficier de la main-d'œuvre locale, les possédants de Mayotte obtinrent de l'administration coloniale que l'esclavage fût aboli à Mayotte en 1847, c'est-à-dire un an avant son abolition en métropole. Pas de question morale dans tout cela. Puisque l'esclavage entravait leurs profits, eh bien les capitalistes n'hésitèrent pas à le supprimer après l'avoir pratiqué à grande échelle dans d'autres colonies. Comme à La Réunion, ils le remplacèrent par le système de l'engagement. Les planteurs français allèrent chercher de la main-d'œuvre dans les îles des Comores, à Zanzibar, en Afrique et jusqu'en Inde. Il n'est donc pas nouveau que des Africains, des Malgaches ou des Comoriens viennent à Mayotte. À l'époque, ils étaient amenés par les colons. Aujourd'hui, ce sont les guerres ou la misère qui les amènent sur l'île. Les conditions épouvantables de travail poussaient régulièrement à la révolte ces exploités. Des séries de mutineries ou d'abandons de plantations, ce qu'on appelle le marronnage, rassemblèrent des centaines d'engagés. L'une d'entre elles, par exemple, fut menée en 1856 par Bakari Koussou. C'était un ancien propriétaire d'esclaves, mais humilié par le pouvoir colonial français qui n'avait pas tenu ses promesses de protection de ses biens. Prenant la tête de la révolte des travailleurs qui désertèrent les plantations, arrêté comme 6 autres insurgés, il fut condamné à mort et exécuté sur la place publique de Dzaoudzi, alors capitale de Mayotte. Même si l'espoir de s'affranchir de la domination du colonisateur était mince, dans toutes les colonies, sur tous les continents, les esclaves se sont révoltés à de nombreuses reprises, refusant la soumission, montrant à ces occasions les trésors d'ingéniosité et de détermination dont ils étaient capables. À partir de Mayotte, l'impérialisme allait organiser en 1895 sa conquête de Madagascar. Cette île continent, de la superficie de la France, gorgée de richesses, et qui avait jusque-là réussi à éviter de devenir une colonie française ou anglaise, allait être au cœur d'un sordide marchandage dont les puissances impérialistes sont coutumières. La France donnait son accord à la prise de possession de Zanzibar par l'Angleterre, tandis que l'Angleterre acceptait la colonisation de Madagascar par la France. Mais les habitants ne se laissèrent pas faire. La campagne de Madagascar fut une des plus atroces. Les soldats français tombaient comme des mouches, décimés par la fièvre. Et il fallut 10 ans et le massacre de centaines de milliers de Malgaches sur une population de 2,5 millions d'habitants pour mater les révoltes qui ne s'arrêtèrent jamais vraiment. Cela n'empêcha pas la bourgeoisie française de commencer la mise en exploitation de l'île pour en récolter le riz, le café, le sucre, les épices et le caoutchouc. Au début du XXe siècle, donc, l'impérialisme français avait établi sa position dans l'océan Indien et dans le Pacifique. En envoyant des aventuriers, des soldats, des marchands, des prêtres, des juristes, avides de pillage, brutaux et hypocrites, ces civilisateurs ont détruit des sociétés anciennes, exterminé, répandu la famine, exploité, vendu des millions d'êtres humains. À ce prix, ils ont fait émerger une classe d'opprimés, faite de petits colons européens, d'engagés de toutes les nationalités et d'autochtones. pour citer Rosa Luxembourg, qui consacra des pages aussi émouvantes que scientifiques à cette introduction du capitalisme partout sur la planète, je la cite. « Le capital n'est pas qu'à sa naissance, dégouttant de sang et de boue par tous les pores, mais pendant toute sa marche à travers le monde. C'est ainsi qu'il prépare dans des convulsions toujours plus violentes son propre effondrement. » Avant elle, Marx et Engels avaient dénoncé la bourgeoisie anglaise colonisant les Indes, soumettant la Chine, maintenant sa domination sur l'Irlande. Ils avaient tracé une voie pour la révolte des peuples colonisés. Pour eux, seul le prolétariat des pays industrialisés pouvait, en renversant sa propre bourgeoisie, offrir une solution aux peuples colonisés. Pour les militants communistes révolutionnaires, l'émancipation des opprimés des colonies et celle des prolétaires des métropoles impérialistes étaient donc indissociables. Mais au tournant des 19e et 20e siècles, alors que les rivalités impérialistes déchiraient le monde, toute une partie du mouvement ouvrier voyait la colonisation comme une bonne chose. L'idéologie de la bourgeoisie pénétrait au sommet des organisations ouvrières et parmi l'aristocratie ouvrière qui s'était formée. Ces organisations se faisaient le défenseur des idées de mission civilisatrice de leur propre impérialisme, espérant ainsi conserver leurs privilèges. Au début du XXe siècle, les fédérations socialistes des Antilles, par exemple, s'opposaient à toute idée de séparation des colonies d'avec la France. En 1917, la révolution russe et les bolcheviks avaient mis fin à l'oppression que l'empire tsariste faisait subir à des dizaines de nationalités éparpillées sur un territoire immense. La révolte contre l'oppression nationale avait été un facteur décisif de cette révolution. En ouvrant les portes de la prison des peuples, comme on appelait la Russie, et en portant au pouvoir les opprimés sans distinction de nationalité, les bolcheviks allaient ainsi offrir un programme à la fois aux peuples colonisés et aux militants communistes des pays impérialistes. L'Internationale communiste, fondée en 1919, affirmait alors, je la cite, que tout parti appartenant à la Troisième Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de ces impérialistes aux colonies, de soutenir non en parole, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la métropole, de nourrir au cœur des travailleurs du pays des sentiments véritablement fraternels vis-à-vis de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées, et d'entretenir, parmi les troupes de la métropole, une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux. Dans les pays colonisés, l'Internationale communiste fixait comme objectif de lutter pour l'émancipation nationale tout en conservant l'indépendance du mouvement prolétarien, et je la cite encore, même quand il n'avait encore qu'une forme embryonnaire, car le prolétariat devait aussi se préparer à disputer tôt ou tard la direction de la révolution à la bourgeoisie nationale. L'Internationale insistait également, je cite encore, sur la nécessité de lutter contre la tendance à parer des couleurs du communisme les courants de libération démocratique bourgeois des pays dominés. Mais ce programme ne put être défendu réellement dans les colonies. Le stalinisme, qui gangréna en quelques années l'Internationale et les partis communistes, se dressa comme un nouvel obstacle sur cette voie, alors même que les peuples s'engageaient, après la Seconde Guerre mondiale, dans la voie révolutionnaire pour se libérer de l'oppression coloniale. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, la rage accumulée pendant des siècles d'oppression explosa et secoua l'ensemble des empires coloniaux. En Indochine, en Algérie et dans toute l'Afrique, les peuples se soulevaient les uns après les autres en une puissante vague révolutionnaire, bousculant une bourgeoisie française affaiblie à la sortie de la guerre. Cette vague anticoloniale toucha y compris les îles lointaines du Pacifique et de l'océan Indien. Dans ces îles, à l'exception de Madagascar, il n'y eut pas d'insurrection. Mais partout, les peuples s'éveillaient et aspiraient à se libérer de la colonisation française. Staline, étant alors l'allié explicite des impérialistes occidentaux, les partis communistes du monde entier étaient devenus les gardiens de l'ordre capitaliste. Dans les métropoles, ces partis ont apporté leur soutien à leur propre bourgeoisie pour l'aider à briser ces révoltes ou à les emmener dans des impasses. En France, le Parti communiste français publia en 1944 une brochure intitulée « Au service de la Renaissance française ». Il y expliquait, je cite, « Pour la France, être une grande puissance européenne et mondiale et tout simplement continuer d'être, c'est la même chose. Unité et intégrité de la plus grande France, des Antilles à Madagascar, de Dakar à Casablanca, à l'Indochine et à l'Océanie, notre pays est une puissance des cinq parties du monde et on ne découvre pas de raison pour laquelle il devrait cesser de l'être. » Ce langage était l'opposé exact de celui de l'Internationale communiste 25 ans plus tôt, à l'époque de Lénine. Malgré tout, dans les colonies françaises, au sortir de la guerre, le prestige du Parti communiste et de l'URSS demeurait vivace. Cela a conduit nombre de ceux qui se battaient pour leur liberté à se tourner vers des organisations liées au PCF. D'autres, repoussés par le soutien inconditionnel du PCF à l'impérialisme français, se tournèrent vers des organisations nationalistes. Selon les pays, ces organisations affichaient un langage socialiste, tout en n'ayant pas d'autres objectifs que l'indépendance et, au fond, celui de permettre l'accès des bourgeois locaux, petits ou grands, à une plus grande part des richesses et du pouvoir. Ainsi, la révolte profonde et durable, l'immense courage et l'abnégation dont firent preuve les opprimés des colonies, les militants ou les intellectuels qui cherchaient une voie pour s'émanciper, tout cela resta sur le seul terrain nationaliste. Alors que le Parti communiste français participait au gouvernement en France avec les socialistes et la droite, une puissante insurrection contre l'ordre colonial explosa à Madagascar en mars 1947. Les insurgés, armés de sagaies et de coupe-coupe, attaquèrent les postes de police, les garnisons. Plusieurs gros colons furent tués. La révolte déferla sur toute l'île. L'état de siège fut décrété et l'impérialisme dépêcha un corps expéditionnaire de 30 000 soldats. Les troupes françaises ne reculèrent devant aucune atrocité pour mater l'insurrection. Mutilation d'otages, mitraillage de trains, largage par hélicoptère de prisonniers vivants au-dessus de villages rebelles, incendie d'habitations. Cette répression sanglante fit, selon l'état-major, 89 000 morts, soit 2% de la population malgache. Elle fut si effroyable et fit disparaître tant de militants indépendantistes que la mémoire collective des Malgaches l'a occultée pendant 50 ans, la transformant en rumeur. En France, elle a été effacée aussi, car ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et que les partis de gauche, alors au pouvoir, ont voulu faire oublier leur complicité. Les députés du Parti communiste votèrent la levée de l'immunité parlementaire des députés malgaches qui ont été rendus responsables d'une insurrection qu'ils avaient pourtant condamnée. Le Parti communiste refusa de rompre la solidarité avec le gouvernement pendant les massacres et cautionna les procès expéditifs qui suivirent l'écrasement de l'insurrection. L'état de siège ne fut levé qu'en 1956. Et en 1960, l'impérialisme français finit par concéder l'indépendance à Madagascar, tout en plaçant à la tête de l'État Tsiranana, un homme qu'il avait choisi pour pouvoir continuer à piller le pays. Pour garder le contrôle dans cette région, l'État fit de la Réunion un département en 1946 avec l'appui des représentants de la gauche locale. À la Réunion, le mouvement ouvrier prit son essor à partir de 1936, lorsque la grève générale qui paralysa la France métropolitaine eut des répercussions jusque dans les colonies. Parmi ses premiers dirigeants, Léon Delépervenche militer pour l'amélioration des conditions de travail et pour le resserrement des liens avec la métropole. Une de ces banderoles revendiquait « La Réunion, département français ». Il faisait cause commune avec Raymond Vergès, un médecin proche de la Ligue des droits de l'homme, et tous deux furent élus députés de La Réunion. À l'Assemblée nationale, à la suite d'Aimé Césaire pour les Antilles, ils défendirent la départementalisation. Ils trouvèrent l'appui du Parti communiste, et ils en devinrent même membres. Alors, s'ils se battaient légitimement pour que les travailleurs de La Réunion jouissent des mêmes droits que ceux de métropole, ils trahissaient les exploités en leur faisant croire qu'ils pouvaient placer leur confiance en un État qui était celui des classes possédantes qui colonisaient leur île depuis 3 siècles. Car si les représentants de la bourgeoisie française à l'Assemblée nationale se prononcèrent pour la départementalisation de La Réunion en 1946, c'était par crainte des mouvements de colère de la population pour qui la situation au sortir de la guerre était intenable. Cette loi lanterna les travailleurs. L'application à La Réunion des mêmes lois qu'en métropole se fit sur des décennies. Il fallut par exemple attendre 50 ans pour que le SMIC réunionnais soit aligné sur celui de métropole. En revanche, la départementalisation fut très bénéfique aux grands propriétaires blancs qui comprirent tout l'intérêt que pouvait leur apporter ce rapprochement avec l'État français, comme par exemple l'avantage d'acheter un contingent annuel de sucre de canne à un prix largement au-dessus du cours mondial, tout en continuant à mettre à sa disposition des forces de répression plus efficaces contre les ouvriers et les petites gens qui réclamaient que leurs droits s'appliquent. La Fédération réunionnaise du Parti communiste français, animée par Vergès et Delépervenche, réunissait tous ceux qui voulaient se battre pour améliorer leur sort. Aussi, face à l'amertume qui gagnait la population pauvre, déçue par les résultats de la départementalisation, elle changea de politique. Elle devint en 1959 le Parti communiste réunionnais et fit la promotion, cette fois, de l'autonomie. Le Parti communiste réunionnais réclamait désormais le droit aux réunionnais, quels qu'ils soient, de gérer leurs affaires, mais c'était toujours une politique de collaboration entre les classes, en offrant cette fois aux classes possédantes de l'île de gérer avec elles les intérêts réunionnais. Le Parti communiste réunionnais et ses militants eurent néanmoins à subir, dans les années 1960, bien des attaques de la part des possédants, des partis de droite et de l'administration, qui les accusaient de vouloir détacher l'île de la métropole. Le Parti communiste réunionnais apparaissait ainsi radical, et maintint son influence parmi les pauvres et les travailleurs malgré l'impasse de sa politique. Pendant que le Parti communiste réunionnais élaborait des plans avec la bourgeoisie réunionnaise, le gouvernement français traitait toujours les réunionnais en colonisés. Il a organisé une véritable déportation des pauvres de la Réunion pour servir de main-d'œuvre en métropole. Entre les années 1960 et 1980, plus de 1600 enfants furent arrachés à leurs familles pour aller servir de main-d'œuvre rurale. Au même moment, l'État mit sur pied le BUMIDOM, c'est le Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer. Il agissait en agent recruteur pour les grandes entreprises françaises, Michelin, Peugeot, SNCF, qui firent venir plus de 70 000 travailleurs réunionnais se faire exploiter dans leurs usines et ateliers. À Madagascar, la France perdit une de ses principales bases navales, celle de Diego Suarez. Pour conserver une présence militaire dans le canal du Mozambique, Mayotte apparaissait comme la meilleure option. Mais depuis les années 1960, aux Comores, la lutte pour l'indépendance s'organisait. Et après Madagascar, une nouvelle déconvenue menaçait l'impérialisme français dans l'océan Indien. Il usa alors des manœuvres les plus tordues pour l'éviter. L'État français exacerba les rivalités entre les 4 îles des Comores, attisant la haine entre habitants de Mayotte et ceux des autres villes. Il transféra ainsi la capitale des territoires des Comores, de Dzaoudzi, à Mayotte, à Moroni, sur l'île Grande Comore. Du jour au lendemain, le marasme économique s'installa et les Mahorais durent faire face à l'arrogance des nouveaux fonctionnaires après des dizaines d'années de traitement inverse. La France donnait ainsi un avant-goût de ce qui attendait Mayotte si elle optait pour l'indépendance. Pour alimenter le nationalisme franco-mahorais, elle pouvait s'appuyer sur les notables locaux, les grandes familles apeurées par la perspective de quitter le giron français. Car pour eux, cela signifiait que leurs possessions perdraient de la valeur, que leur petit pouvoir serait remis en cause. Autour de Marcel Henry ou Younoussa Bamana, tous deux issus de familles de propriétaires terriens, les notables s'organisèrent au sein du mouvement populaire mahorais, dont est issu l'actuel mouvement pour le développement de Mayotte. Aidés par des militants d'extrême droite monarchistes de métropole, des nostalgiques de l'empire colonial, ils menèrent la lutte pour ce qu'ils appelaient Mayotte française. Ils mirent sur pied des milices, les chatouilleuses et les sorodas, pour chasser de l'île manu militari les militants pour l'indépendance appelés les serrer la main. Ils propageaient ainsi un nationalisme franco-mahorais violemment anticomorien. L'État français préparait ainsi la séparation de Mayotte. Mais le pouvoir hésitait. La départementalisation de Mayotte était défendue par Michel Debré, qui était député de La Réunion, un proche de De Gaulle. En revanche, Jacques Faucard, le monsieur Afrique de De Gaulle, craignait une explosion de colère dans le cas d'une indépendance des Comores sans Mayotte. Lui, il militait pour une indépendance fictive des quatre îles en manœuvrant en sous-main grâce à un chef d'État local à la botte de l'impérialisme, comme il l'avait organisé bien des fois en Afrique. Au final, l'impérialisme français joua sur les deux tableaux. Après bien des tergiversations, les représentants politiques de la bourgeoisie française décidèrent d'organiser un référendum sur l'indépendance, mais de prendre en compte les résultats île par île, piétinant ainsi les règles du droit international que l'État français ne cesse pourtant de prétendre défendre. Après que les milices pro-françaises aient fait le ménage, intimidant tous ceux qui souhaitaient l'indépendance, les électeurs de Mayotte se prononcèrent en 1976 à 99% pour rester français, tandis que dans le reste des Comores, l'indépendance l'emportait. Pourtant, le gouvernement n'était pas encore disposé à faire de Mayotte un département. Il la dota d'un statut de collectivité particulier qui donnait surtout des pouvoirs élargis au préfet. La petite bourgeoisie mahoraise, bien mal récompensée par les maîtres à qui elle voulait lier son sort, allait devoir encore patienter 35 ans. Au même moment, le dirigeant du territoire des Comores, Ahmed Abdallah, proclama son indépendance. Une indépendance qui allait vite se révéler de pure forme. Les Comores allaient devenir le terrain de jeu des barbouzes menés par Bob Denard et des diplomates français pendant plus de 20 ans. En privant les Comores des quelques subsides qu'octroyait la France à Mayotte, il allait en revanche condamner la population comorienne à une situation de pauvreté parmi les plus dramatiques de la région. En menant ces manœuvres, la France réussit le tour de force de diviser un peuple dont les liens culturels, familiaux et économiques étaient séculaires. En 1995, la division fut approfondie et entérinée juridiquement lorsque le gouvernement Balladur instaura un visa pour pouvoir circuler des Comores à Mayotte. Il transformait ainsi les pauvres des îles de l'archipel des Comores en immigrés clandestins, obligés de risquer leur vie sur des embarcations de fortune pour rejoindre Mayotte. La remise en cause actuelle du droit du sol et les discours xénophobes qui l'accompagnent sont le produit de la politique de domination de l'État français qui met les peuples dans une situation absurde et invivable. En Océanie, le passage de l'armée américaine sur leurs îles pendant la Deuxième Guerre mondiale bouleversa la vie des populations. En Nouvelle-Calédonie, des centaines de milliers de soldats débarquèrent, accompagnés de toute la technologie moderne, mais aussi des emplois payés en dollars, bien loin du travail forcé de l'indigénat. En Polynésie, l'île de Bora Bora fut couverte d'infrastructures dernier cri pour accueillir les avions gros porteurs américains. Une partie de la population océanienne a pu ainsi constater à quel point l'État français le laissait vivre dans des conditions arriérées. Au contact des soldats venus des pays impérialistes, ils fréquentèrent des Noirs américains, des militants de tous bords, découvrant des idées d'émancipation sociale et nationale. Pour leur faire accepter les sacrifices de la guerre, le pouvoir colonial avait promis de leur assurer l'égalité. Les promesses furent oubliées par les colons, mais pas par les peuples colonisés. En Polynésie, la contestation s'exprima autour de Puvana Opa. Ancien combattant tahitien de la Première Guerre mondiale, il a pris conscience des injustices que subissaient les Polynésiens. Durant la Deuxième Guerre, il enragea contre les privilèges des fonctionnaires français alors que les Tahitiens manquaient de tout. Il ne cessa de mobiliser la population contre l'administration française. Pourchassé, arrêté, condamné, Puvana devint très populaire parmi les pauvres, les ouvriers et les paysans de Polynésie et se fit élire député en 1949. Bien qu'il se défendît publiquement d'être communiste, le PCF décida de le soutenir. Le Parti communiste français avait renoncé à construire des partis communistes dans l'Empire colonial pour mettre sur pied des partis dits « démocratiques » qui prônaient l'assimilation à la métropole. En Polynésie, il construisit autour de Puvana le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes. Comme à La Réunion, le Parti communiste français conduisait les opprimés non pas à combattre l'impérialisme, mais à placer leur confiance dans l'État français. Puvana, lui, au contraire, évoluait vers les idées d'indépendance. Il se rendait compte en fait que rien ne changeait. Et c'est là qu'il devint l'homme à abattre pour l'État français. En 1958, le pouvoir gaulliste monta de toutes pièces une fausse accusation contre lui. Il fut condamné à 8 ans de prison en métropole et 15 ans d'interdiction de séjour en Polynésie. À ce moment-là, la course à l'arme nucléaire était engagée par les grandes puissances. L'impérialisme français cherchait un site pour réaliser les essais. Le Sahara algérien avait la préférence de l'État, mais la perspective de sa défaite face à la guerre menée par le FLN, avec le soutien de la population algérienne, l'obligea à se rabattre sur son second choix, la Polynésie. Pour pouvoir mener ses essais, l'État français fit la chasse aux potentiels contestataires comme Puvana et chercha à bâillonner la population. La période des essais nucléaires, entre 1966 et 1996, a bouleversé la vie de la Polynésie. Devenue une sorte d'archipel de garnison, les inégalités ont explosé entre des fonctionnaires avec des salaires équivalents à la métropole et une couche de travailleurs au petit salaire qui s'est entassée à Tahiti après avoir quitté leurs activités économiques traditionnelles. Les 193 explosions nucléaires ont été une catastrophe sanitaire. Aujourd'hui encore, l'espérance de vie en Polynésie est bien plus faible qu'en métropole. C'est 6 ans de moins pour les femmes et 5 ans de moins pour les hommes. Et il y a 2 à 3 fois plus de cancers de la thyroïde qu'à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande. À la fin des années 1970, des jeunes de la petite bourgeoisie polynésienne créèrent des organisations indépendantistes pour résister. La plus importante fut fondée par Oscar Temaru, un fonctionnaire des douanes qui s'inspira de l'OLP palestinienne pour fonder le Tavini, aujourd'hui aux affaires en Polynésie. Alors, cette contestation politique posa un problème à l'État français, qui sortit en 1984 la carte du statut d'autonomie en créant de nouvelles institutions locales. Elles lui permirent de constituer un réseau de politiciens locaux qui entretenaient toute une clientèle électorale favorable aux intérêts de l'impérialisme. Gaston Flosse, adversaire déclaré de l'indépendance, proche du RPR de Jacques Chirac, bénéficia de ces nouvelles institutions locales. Son métier d'assureur lui permit de se lier à tout ce que la Polynésie comptait de notable. Ses amitiés politiques, la corruption, le clientélisme lui permirent de régner pendant 40 ans sur la vie politique de l'archipel. L'activité nucléaire fut une manne pour la petite bourgeoisie locale, qui profita des fonds qui arrivaient dans le Pacifique. Mais elle n'a permis aucun développement économique. En 1987, les dockers déclenchèrent une grève sur le port de Papeete pour obtenir une augmentation du nombre de manutentionnaires sur le site du centre d'expérimentation nucléaire de Mururoa. La grève se transforma en émeute et en mobilisant toute la population pauvre de la ville. Durant les années 90, de telles émeutes se succédèrent, la population dressant des barrages, brûlant des drapeaux français. La colère fut décuplée lorsque Chirac annonça la reprise des essais nucléaires en 1995, après 3 ans d'arrêt. Les jeunes et les pauvres de Papeete prirent d'assaut l'aéroport pour empêcher les chefs politiques, dont Gaston Flosse, de quitter Tahiti. Ils affrontèrent pendant 2 jours gendarmes et policiers. Oscar Temaru et son parti, qui n'étaient pas à l'origine de la révolte, s'en firent les porte-parole, parlant au nom des jeunes et des pauvres qui n'avaient pas d'organisation, appelant au calme et aux élections. À la suite de ces émeutes, la popularité des indépendantistes s'accrut. L'État s'empressa de leur faire une place dans les institutions locales, dont il élargit le nombre de postes et les compétences. En s'appuyant ainsi sur la colère de la population, les notables polynésiens, tout en maintenant une posture d'opposant, se sont complètement intégrés au jeu des institutions bourgeoises. La fin de la Deuxième Guerre mondiale accéléra de la même façon l'éveil des revendications politiques kanaks. Durant leur vie de soldats, certains avaient découvert le communisme et se rapprochèrent de militants syndicaux, surtout implantés dans le milieu européen des petits planteurs et des ouvriers blancs des mines, qui allaient fonder en Nouvelle-Calédonie un parti communiste à la sortie de la guerre. Malgré l'hostilité de bon nombre de militants blancs, Jeanne Tounica, une Européenne, patronne de bar, organisa en 1946 les travailleurs kanaks et indochinois au sein du Parti communiste calédonien qui purent ainsi se battre contre le travail forcé et les inégalités salariales, l'abolition de l'indigénat et des impôts spécifiques. Mais... le nationalisme du PCF contribua à jeter les Kanaks dans les bras des notables qui se firent les porte-parole des revendications nationales kanaks. Ceux-ci créèrent en lien avec les missions catholiques et protestantes le premier parti politique nationaliste, l'Union calédonienne. Dans un premier temps, le gouvernement lâcha du lest. L'indigénat fut aboli, le droit de vote progressivement attribué à tous les Kanaks. Mais très vite, il resserra la vis. En 1964, l'État français emprisonna le leader de l'Union calédonienne, Maurice Lenormand, un intellectuel pourtant modéré, en inventant une complicité d'attentat. Pour bâillonner les aspirations nationales des Kanaks, le ministre Pierre Messmer décida en 1972 de faire venir des personnes des autres territoires d'outre-mer, la Réunion, Wallis et Futuna, la Polynésie, mais aussi de métropole, afin de diluer la proportion des Kanaks. Les efforts de l'impérialisme ne parvinrent cependant pas à briser la combativité des Kanaks. Avec la grève de mai 68, les étudiants Kanaks en métropole avaient découvert le marxisme et les luttes anticoloniales, mais des versions frelatées du marxisme, celles du stalinisme et de son avatar maoïste alors à la mode, dans lesquels l'internationalisme et la lutte de classe étaient remplacés par le nationalisme. Ils fondèrent alors des partis comme le PALIKA, le Parti de la Libération Kanak, tenant une position plus résolue pour l'indépendance. Il devint un concurrent de l'Union calédonienne. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, l'espoir fut grand de voir les revendications nationales kanak satisfaites. Mais très rapidement, ce fut la douche froide. Bien que le ministre de l'Outre-mer de Mitterrand affirmait, je le cite, « le droit inné et actif à l'indépendance », il rejeta la revendication des indépendantistes de permettre à la population kanak de se prononcer sur la séparation avec l'État français. C'était un nouvel affront. Les Kanaks décidèrent alors de boycotter les élections territoriales de 1984. Pendant plusieurs semaines, les militants couvrirent l'île de barrages routiers. Éloi Machoro, un des dirigeants nationalistes les plus radicaux au sein de l'Union calédonienne, brisa une urne à coups de tamioc, une hache de guerre kanak. Il organisa le siège de Tio, la ville qui abritait la société Le Nickel, en neutralisant et ridiculisant gendarmes et propriétaires caldoches. Les partis nationalistes se regroupèrent au sein du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, dirigé par Jean-Marie Djibaou, un ancien prêtre, dirigeant de l'Union calédonienne. Mais très vite, des dissensions apparurent. Lorsque Edgar Pisani, un émissaire du gouvernement, proposa des concessions sur les institutions locales, Djibaou, comme la plupart des dirigeants du FLNKS, appela à lever les barrages et à la discussion, alors même que deux de ses frères venaient d'être assassinés avec 10 militants du FLNKS dans une embuscade à Yengen. Éloi Machoro et les siens proclamaient au contraire ne faire aucune confiance au gouvernement et appelaient à poursuivre le combat. Au fond, Machoro partageait le même objectif politique que Djibaou, arracher une plus grande part du pouvoir à l'impérialisme. Mais pour forcer l'État français à composer, il était prêt à user de méthodes radicales. Et c'est ça qui fit de lui l'homme à abattre. En janvier 1985, c'est-à-dire il y a 40 ans, il fut sur ordre de Pisani et probablement du gouvernement socialiste abattu avec un autre militant par le GIGN alors qu'ils négociaient leur reddition. Pendant les 3 années qui suivirent, manifestations, barrages, affrontements armés se succédaient. Une fois de plus, les Kanaks se battaient contre la puissance coloniale que son gouvernement fut entre les mains de la gauche ou de la droite. En avril 1988, en pleine campagne des présidentielles, le socialiste Mitterrand étant à l'Élysée, les indépendantistes attaquèrent une gendarmerie pour faire pression sur l'État français. Cela se passa sur l'île d'Ouvéa. Les Kanaks prirent 19 gendarmes en otage et en tuèrent 5 durant l'assaut. Ils se réfugièrent dans une grotte. Le ministre Ponce ordonna de mettre l'île en état de siège et choisit de faire donner l'assaut par l'armée qui anéantit les combattants indépendantistes, en tua 19 et certains après l'attaque dans des exécutions sommaires. Ponce fit le choix consciemment d'un tel massacre. Et cela ne l'empêcha pas d'affirmer, juste après, qu'il était du côté, je cite, « de ceux qui ne veulent plus de violence ». Une fois de plus, 40 ans après les massacres de Madagascar ou de Sétif, les dirigeants politiques français, gauche et droite à l'unisson, étaient prêts à massacrer les peuples coloniaux qui osaient relever la tête et refusaient de continuer à être traités en parias. Après le massacre d'Ouvéa, Jean-Marie Djibaou devint l'interlocuteur privilégié du gouvernement. Main dans la main avec Lafleur, le représentant de la droite caldoche descendant des colons, il signa les accords de Matignon en 1988. Des dizaines de jeunes Kanaks révoltés étaient morts, des dizaines d'autres avaient tout perdu pour se libérer de la colonisation française, mais Djibaou troqua leur combat contre quelques miettes de pouvoirs locaux. Cet aboutissement n'était pas lié à la personnalité de Djibaou, mais au terrain choisi par les fondateurs du FLNKS. Se battre pour la seule perspective d'arracher à l'impérialisme quelques concessions qui ne menaçaient pas ses intérêts, d'arracher quelques postes pour gérer les richesses de la Nouvelle-Calédonie, sans chercher à entraîner les exploités de toutes les nationalités qui vivaient sur l'archipel, comme ceux qui subissaient les mêmes spoliations, ségrégations et humiliations sur les autres îles et archipels du Pacifique. L'impérialisme intégra dans les institutions une partie de la petite bourgeoisie kanak, tout en préservant les positions de la bourgeoisie française et caldoche. À l'exception des pouvoirs régaliens, police, armée, justice et monnaie, les autorités locales, provinces, communes, obtinrent une large autonomie. Le pouvoir accordait en outre le gel du corps électoral, qui réservait le droit de vote aux habitants de la Nouvelle-Calédonie ayant une certaine durée de résidence sur l'archipel. Cela favorisait un peu les Kanaks, tout en les laissant minoritaires. Depuis les accords de Nouméa en 1998, la Nouvelle-Calédonie est donc divisée en trois provinces, celle du sud, la plus riche et la plus peuplée, avec Nouméa, qui est aux mains des caldoches anti-indépendantistes, et les deux autres, celles du nord et des îles Loyauté, les plus pauvres, qui sont dirigées par des partis kanaks. Dès lors, la vie politique de la Nouvelle-Calédonie est rythmée par le rapport de force entre l'État, la droite caldoche et les partis indépendantistes. Entre ces deux camps, il n'y a donc pas, malgré le passé colonial, de fossé de classe, mais une concurrence pour le pouvoir local. Dans l'océan Indien, comme dans l'océan Pacifique, dans les décennies qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les peuples se sont à plusieurs reprises soulevés contre la domination de l'impérialisme français. Mais les travailleurs et les pauvres des îles n'ont trouvé comme drapeau derrière lequel se ranger que celui des notables nationalistes, qu'ils se disent autonomistes ou indépendantistes. Aujourd'hui, alors que l'économie mondiale est en crise, la domination de l'impérialisme provoque de nouvelles crises politiques et de nouvelles révoltes. Les récents coups de colère en Nouvelle-Calédonie, la montée des tensions entre pauvres à Mayotte sur fond de misère croissante, montrent à la fois le caractère explosif de la situation, le danger de la division entre opprimés et la nécessité de faire exister une politique qui se place sur un terrain de classe et pas sur le terrain nationaliste.